Radio Kapi. Oh, Kapi. Le journal Belinda Bousouma.
À la une, ouverture hier à Kinshasa du procès de l'ancien ministre de la Justice et garde des Sceaux devant la Cour de cassation. Constant Mutamba est accusé de détournement de 19 millions de dollars dans un marché avec une société décrite comme fictive. 116 cas suspects de choléra, dont 16 décès enregistrés dans le Maïndombe. En l'espace de quelques jours, la situation inquiète, indique le chef de la division provinciale de la santé du Maïndombe. Dr Francis Cambol signale tout de même que des échantillons ont été prélevés et envoyés à l'Institut national des recherches biomédicales à Kinshasa. Entre-temps, le choléra fait rage dans la province de la Tchopo. Déjà 250 décès depuis le début de cette année sur plus de 300 cas recensés. Chiffre communiqué par la division provinciale de la santé. Pour en parler, nous recevons le docteur Bienvenu Ikomo, médecin-chef de la division provinciale de la santé dans la Tchopo. À tous et à toutes, bonjour. L'actualité reste marquée par l'ouverture hier mercredi à la Cour de cassation à Kinshasa du procès de l'ancien ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Mutamba. Lors de cette première audience publique, le ministère public a présenté les faits reprochés aux prévenus, l'accusant d'avoir détourné 19 millions de dollars dans un marché de gré à gré avec la société Zion Construction. Cette société est décrite par le parquet général comme une entreprise fictive sans aucun actif financier. Après plusieurs demandes répétées, la défense a obtenu une remise au 23 juillet prochain. Le compte-rendu de Jeff Ngoy Mulonda.
Cette remise permet à la défense non seulement de s'imprégner des pièces qui gisent au dossier, les compulser pour un débat contradictoire avec le ministère public, mais aussi de régulariser la procédure pour le prévenu qui n'a pas pu suivre tout le déroulé de l'audience à son débit. D'après la défense, la cour doit se conformer aux exigences d'un procès équitable. Yves Kisombe, avocat de Mutamba.
La procédure pénale fait dépendre de son déroulement le sort des accusés. Et ici, chacun a droit à un procès équitable. Et le procès équitable, c'est l'indépendance du juge, mais c'est aussi le respect de la procédure. Il y va des droits fondamentaux, il y va de l'efficacité de ce qui sera fait ici. Constant Mutamba n'a pas été cité régulièrement. Il a été cité par le greffier en chef, alors que c'est le procureur général qui doit lui adresser la citation à prévenu. Alors, le ministère public a, avec l'autorisation de la cour, procédé à la présentation générale des accusations contre le ministre Mutamba avant son arrivée. Elle a estimé par la suite que c'était nous, les avocats, qui devions faire le rapport à notre client. Vous verrez la ligne de la défense de Constant Mutamba.
Une trentaine d'avocats de la défense plaident pour l'innocence de l'ancien garde des Sceaux. Ils déclarent attendre de la cour de dire le vrai droit. Le prévenu comparé à un homme libre.
Parlons santé à présent. L'augmentation rapide des cas suspects de choléra inquiète dans la province du Maïndombe. En l'espace de quelques jours, le nombre de cas est passé d'une vingtaine à une centaine avec 16 décès enregistrés. Des échantillons ont été prélevés et envoyés à l'INRB, l'Institut national de recherche biomédicale à Kinshasa. Selon Dr Francis Cambol, chef de la division provinciale de la santé dans le Maïndombe, 5 zones de santé sont touchées, à savoir Mouchi, Nyoki, Kwamout, Yumbi et Bolobo. Ce dernier est situé près du fleuve Congo. On écoute Dr Francis Cambol.
Présentement, nous avons enregistré 116 cas suspects de choléra, dont 16 décès, soit une létalité de 13,8%. Les échantillons ont été prélevés et envoyés à l'INRB. Maintenant, nous attendons les résultats pour confirmer ou infirmer l'épidémie. Actuellement, la zone de santé qui enregistre beaucoup de cas, près de 45% des cas, proviennent de Bolobo. Bolobo a 51 cas suspects, dont 3 décès. Bolobo, c'est sur le fleuve Congo. Vous savez, Bolobo est en étau pratiquement à l'épidémie était à l'Équateur, on l'a à Kinshasa. Et il y a un marché qui s'est fait à Bolobo-Yumbi. Alors, cet afflux de personnes-là fait en sorte que Bolobo enregistre beaucoup de cas. Et même Yumbi, qui avait un cas l'autre fois, est déjà à 14. Alors, nous craignons cette semaine, avec le marché qui s'est fait à Yumbi et à Bolobo, que nous ayons encore beaucoup plus de cas. Mais après Bolobo, c'est Gnocchi qui vient en deuxième position avec 27 cas suspects. Et Gnocchi, il faut signaler que c'est à Kibambili. C'est pour cela que nous tenons à sensibiliser la population sur les mesures d'hygiène afin que les cas ne puissent pas augmenter de façon exponentielle.
Autre nouvelle, l'Asbel Women's Technology a dévoilé au ministère du Développement Rural un robot innovant de traitement d'eau baptisé Isabo. Ce dispositif, selon ses concepteurs, permet de transformer de l'eau insalubre en eau potable à l'aide d'une simple solution de sel et d'électricité solaire. Devant la presse lundi 7 juillet, la présidente de cette organisation, Thérèse Kirongozi, a expliqué que le robot Isabo a été conçu pour prévenir les maladies d'origine hydrique qui continue de faire des ravages dans plusieurs zones rurales du pays. Thérèse Kirongozi explique au micro de Blaise Ndongala Mayanda.
Cette machine Isabo va aider plus notre population au milieu rural de trouver la solution par rapport à la potabilité de l'eau. Nous savons tous que plus de 50% de la population congolaise n'ont pas accès à l'eau potable. Même une partie de la ville de Kinshasa n'a pas accès à l'eau potable. Alors, Women's Technology a trouvé une solution concrète, simple, c'est-à-dire cette machine, rien qu'avec 20 grammes de sel mélangé avec de l'eau, renversé dans cette machine, ça nous donne une solution qu'on appelle ion hypochlorite. Si nous prenons juste une cuillerée à café de cette solution, nous mélangeons avec 25 litres de l'eau, souvent 1 ou 20 litres, ça nous donne de l'eau potable, que ce soit de l'eau de surface, que ce soit de l'eau de forage. Nous savons qu'il y a toujours des bactéries, il y a toujours des virus. Nous savons que dans nos villages, il n'y a pas l'électricité. Nous fonctionnons avec une petite batterie, avec un panneau de 20 watts crête.
Merci de nous écouter à Bounia, dans la province de l'Ituri. Ici, le commissariat urbain de la police a appréhendé hier une dizaine de mineurs délinquants qui sèment le trouble dans la ville. Ces jeunes se livrent à des extorsions des biens des habitants et blessent des personnes à l'aide des objets tranchants. Les victimes sont entre autres des élèves. Ces délinquants ont été appréhendés lors d'une opération de traque menée par des éléments de la police. Le commandant de la police ville de Bounia demande aux parents de passer identifier leurs enfants parmi ces délinquants à l'état-major de la police où ils sont entendus par des officiers de police judiciaire. Le commandant de la police ville de Bounia s'exprime au micro de Jean-Claude Loki.
Un groupe de délinquants composé en majorité des mineurs qui proviennent de Kapem, Kandoromo, quartier Opas et Bigo s'attaque aux élèves de différentes institutions scolaires se trouvant sur la colline des complexes scolaires Shalom, Kabengele et Mandela. Qu'il restaure tous les biens de valeur, argent, montres, chaussures, uniformes et des fois blesse même certains avec des objets contondants avant de disparaître dans la nature. Le commandant ville a organisé une opération de traque de ces criminels et délinquants ou des enfants en conflit avec la loi à l'occasion des cérémonies de la clôture de l'année scolaire édition 2024-2025 qu'il cherchait également à déstabiliser, au cours de laquelle une dizaine parmi eux ont été interpellés et acheminés à l'état-major de cette unité.
Rendons-nous au nord Kivu. La population d'au moins 5 villages de la chefferie de Bwito dans le territoire de Rutshuru crie famine. Ses habitants ont été contraints de fuir leur village depuis fin mai dernier suite aux opérations militaires menées par les rebelles du M23 contre les FDLR dans la région. En quittant précipitamment leur maison, ils ont dû abandonner leur récolte, ce qui les plonge dans l'insécurité alimentaire. Le point avec Askin Zibia Taoro.
Il s'agit des habitants du village Runzenze Marangara, y compris un centre de santé de Kasali, des escarpements de Kirumba et Lukarara. Ces villages sont situés dans le groupement de Tongo et Bambo, chefferie de Bwito. Nos sources rapportent que ces familles déclarent mourir de faim actuellement alors que des récoltes pourrissent dans leurs champs dans une zone occupée par les rebelles. Ces habitants aimeraient pouvoir accéder à leurs champs même de temps en temps. Rappelons que depuis mai dernier, les rebelles du 1-2-3 ont intensifié la traque dans cette zone champêtre de Bito, réputée être un bastion de FDLR. Le M23 ont alors déguerpi les habitants, incendié des maisons et tué plusieurs personnes selon diverses sources. Les habitants du village concerné ont trouvé refuge vers Rouchovou, Kienge, Hohe, Rouchegué et Kalingera, où ils vivent dans des conditions difficiles, rapportent nos sources dans la région. Actuellement, il n'y a pas d'affrontement signalé dans cette zone, mais les rebelles bloquent toujours l'accès aux populations, affirment des notables.
Dans l'actualité aussi, le ministre du Commerce extérieur vient de décrocher l'appui de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement en ce qui concerne la promotion du commerce électronique, le renforcement des capacités et la recherche des partenaires financiers et techniques. Cela pour promouvoir le secteur du commerce en République démocratique du Congo. C'était hier en marge de la 9e Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, focalisée sur la concurrence et la protection des consommateurs. Conférence qui se tient à Genève, en Suisse. Plus de détails avec Alain Roumouchinge.
Cette information est confirmée par Pedro Manuel Moreno, secrétaire général adjoint de la CNUSED, après le lobbying mené par la RDC au cours d'une réunion stratégique avec le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku Kaongia, accompagné de l'ambassadeur de la mission permanente de la RDC auprès des Nations Unies, Paul Impole Lokoso Efambe, et des experts dont le secrétaire général au commerce extérieur, Jules Mouilumbo. Le ministre du Commerce extérieur salue pour sa part cet engagement de la CNUSED et la promulgation des ordonnances loi ratifiant l'accord sur la facilitation des échanges de l'Organisation mondiale du commerce OMC et sur les subventions de la pêche.
La bonne nouvelle que nous annonçons ce jour, c'est que le président de la République a promulgué deux ordonnances loi. La première concerne la ratification de l'accord sur la facilitation des échanges de l'OMC. La deuxième ordonnance loi concerne la ratification de l'accord sur les subventions de la pêche. Ce sont deux accords importants que la RDC n'avait pas encore ratifié depuis 2013 pour le premier accord et depuis 2022 pour le deuxième accord. Et donc c'est une très très bonne nouvelle parce que la RDC s'aligne désormais sur la modernité ou la modernisation du commerce international.
Signalons qu'une commission mixte RDC-CNUSED a été mise en place pour élaborer une feuille de route pour amorcer la concrétisation de ces promesses fermes de cette organisation permanente de l'Assemblée générale des Nations Unies qui s'occupe des questions du commerce, d'investissement et de développement.
Entre-temps, une trentaine d'agents du secrétariat général de la communication, poste et télécommunication participent depuis mercredi à Kinshasa à un atelier de renforcement des capacités sur la gouvernance numérique et la gestion axée sur les résultats. Ces travaux de deux jours, organisés par l'UNESCO, mettent un accent particulier sur l'intégration de l'intelligence artificielle dans la gestion afin d'accroître le rendement de ces services étatiques. Le compte-rendu de Ronéline Tibonera.
Au cours de ces deux journées, plusieurs thèmes seront abordés par les intervenants. Il s'agit notamment de l'intelligence artificielle et ses défis, de l'impact du numérique et du rôle de l'intelligence artificielle dans l'administration publique, ainsi que de la compréhension de la gouvernance numérique, indique le représentant pays de l'UNESCO, Dr Isaias Barreto.
L'UNESCO croit fermement que le renforcement des capacités humaines est le fondement de tout progrès durable.
Ces assises sur la gouvernance sont un choix important pour opérer les changements dans l'administration congolaise, estime Kandoko Rambua, chef de bureau à la division unique du secrétariat à la communication.
Associer la transformation numérique et la gestion axée sur les résultats, c'est faire un choix stratégique. Cela signifie que nous ne voulons pas seulement utiliser les outils modernes, mais surtout que nous voulons produire des impacts concrets, mesurables, durables au service des citoyens.
Notons que cette session de renforcement des capacités permettra à ces agents de mieux appréhender la gouvernance numérique et ses principes ainsi que les enjeux pour les administrations publiques en matière de planification et des suivis pour l'élaboration des plans d'action numérique adaptés aux réalités locales de la République démocratique du Congo.
Nous sommes à présent à Beni au Nord Kivu. Une vingtaine de jeunes participent depuis lundi à une formation de 2 mois sur l'art oratoire et l'écriture des romans. Cette initiative portée par le groupe Mind State Information vise à doter les participants des techniques leur permettant de transmettre des messages captivants et de documenter les réalités de leur région à travers l'écriture. Elle vise aussi à développer leur expression orale et leur créativité littéraire. Jacques Bouanande, qui est l'un des formateurs, en explique la portée au micro de Marc Marofimbo.
Nous avons vu le potentiel dans la jeunesse de Videbeni et de Butembo. Nous sommes dit que le plus important, c'est de leur montrer comment est-ce que nous faisons pour devenir des auteurs écrivains. Nous sommes dit, si nous amenons les jeunes à écrire, à parler devant les gens avec vivacité, avec courage, ça peut faire de sorte que la ville de Beni et Butembo soit connue de par sa plume. La formation vise à amener les jeunes à trouver leur force intérieure, cette boule d'énergie qui pousse les auteurs à trouver plus de mots et à captiver l'attention des gens. Donc après la formation, il y aura un concours d'éloquence, un concours d'écriture. La personne qui aurait écrit un livre qui va beaucoup plus impacter, un livre qui respecte presque toutes les normes, sera au moins édité gratuitement. Et la personne qui aura gagné le concours de lauréat aura vraiment un cadeau spécial pour ce concours. À l'issue de la formation, vouloir c'est que le jeune puisse prendre encore conscience de l'écriture et prendre courage d'écrire. On ne vient pas pour montrer aux jeunes comment écrire, mais on vient leur montrer les secrets pour parvenir à captiver les gens, à captiver les lecteurs, afin que votre livre, votre discours soit le mieux parlé à travers le monde, à travers la ville de Beni.
Actualité internationale. Perenco, le géant du secteur pétrolier bien connu en Afrique où ses agissements mobilisent les ONG, est aujourd'hui dans le collimateur de la justice colombienne. Ce dernier l'accuse d'avoir financé des milices paramilitaires entre 1997 et 2005 et d'être par conséquent indirectement impliqué dans le conflit qui a coûté la vie à plus d'un million de personnes en Colombie. Mardi 8 juillet, deux bureaux du groupe franco-britannique ont été saisis à Bogota.
L'invité.
La province de la Chopo fait face à une épidémie de choléra. Les chiffres communiqués par la division provinciale de la santé sont préoccupants. Plus de 300 cas recensés, dont plus de 250 décès depuis le début de l'épidémie à la 9e semaine épidémiologique. Pour mieux comprendre cette situation et les mesures prises, nous recevons Dr. Bienvenue Ikomo, médecin-chef de la division provinciale de la santé dans la Chopo. Il est avec Jacques Moukonkole.
Docteur, bienvenue Ikomo, bonjour.
Bonjour monsieur le journaliste.
Quelle est la situation réelle du choléra dans la province de la Chopo?
Bon, monsieur le journaliste, merci pour la préoccupation. La maladie, elle est réelle dans la province de la Chopo. Alors, il y a un total de 15 zones de santé aujourd'hui qui notifient les cas. On a commencé depuis la semaine épidémiologique numéro 9, depuis la semaine 9 avec la zone de santé de Loa. Et aujourd'hui, il y a la zone de santé de Yaïsoul qui vient de s'ajouter. C'est que nous totalisons déjà 15 zones de santé qui notifient des cas.
Combien de cas sont rapportés aujourd'hui dans l'ensemble?
Dans l'ensemble, ce que je donne des cumuls depuis qu'on avait notifié les premiers cas et depuis le 7 juillet, que le gouverneur de province avait déclaré l'épidémie de choléra dans la province de la Chopo. Aujourd'hui, le cumul des cas fait un total de 3939 cas contre 254 décès. Et c'est une létalité qui avoisine 6%.
Est-ce qu'il y a une catégorie ou plutôt une tranche d'âge qui est la plus touchée?
Bon, par rapport à la tranche d'âge, c'est beaucoup plus les vulnérables. Ça veut dire que ici, c'est beaucoup plus les enfants de moins de 5 ans. Il y a les femmes enceintes aussi. Il y a les personnes de 3e âge. Ils sont vraiment faibles vis-à-vis de cette pathologie, mais au moins toutes les tranches d'âge sont touchées.
La ville de Kisangani est aussi concernée?
Oui, la ville de Kisangani est aussi concernée, puisque la ville de Kisangani, nous avons les différentes zones de santé urbaines, les 5 zones de santé de la ville de Kisangani. Parmi les 5 zones de santé, il y a la zone de santé de Kabondo, il y a la zone de santé de Makiso Kisangani et la zone de santé de Lubunga, qui avait aussi notifié des cas.
Docteur, les chiffres que vous venez d'avancer tout à l'heure sont vraiment effrayants. Quelles sont les causes de la propagation de cette épidémie?
Comme vous le savez, la première zone de santé qui avait commencé à notifier les cas, c'est la zone de santé de Loa. Alors, beaucoup plus les gens se contaminent par l'eau des boissons et les aliments qui sont contaminés. Lorsqu'on prend de l'eau et des aliments qui sont contaminés, alors vous serez aussi contaminé. Et vous voyez, avec le fleuve, les gens sont en train de déféquer dans l'eau. Moi-même, je suis arrivé jusqu'à Babingi, dans la zone de santé de Wanyarukula. Je suis allé la semaine passée. J'ai vu comment vraiment à 5 km. Il y a un poste de santé juste à côté. Et même au niveau de Wanyarukula sur place. Comment est-ce que les gens sont en train de déféquer dans l'eau? Lorsque vous êtes en train de déféquer dans l'eau, ça veut dire que vous êtes en train de faire en sorte que ceux qui sont en aval peuvent facilement se contaminer. Puisque beaucoup de nos compatriotes à ce niveau-là, ils sont en train d'utiliser l'eau des fleuves pour la cuisson, pour la boisson. Ils utilisent l'eau du fleuve. Et c'est comme ça que les gens se contaminent facilement.
Dans le cadre de la lutte contre cette maladie, docteur, quelles sont les dispositions que vous avez envisagées?
Bon, à notre niveau, il y a d'abord, lorsqu'on a déclaré l'épidémie, au niveau de la province, nous avions mis en place le système de gestion de l'incident et tous les piliers sont opérationnels. Que ce soit la surveillance, la prise en charge, la PCI, la communication et avec l'appui des différents partenaires. D'abord, c'est l'OMS qui avait commencé avec un grand lot de médicaments. Nous avions reçu les médicaments de la Banque mondiale, nous avions reçu les médicaments de l'UNICEF et même le financement UNICEF pour la réalisation des activités pour soutenir les différents piliers. Il y a les activités des PCI qui avaient déjà commencé avec la désinfection, la décontamination et même la chloration aussi. Toutes ces activités ont déjà commencé et nous continuons à recevoir cet appui de nos partenaires MSF qui sont dans les zones de santé de Yakoussou, ils appuient aujourd'hui Sangui, ils sont aussi à Opala. Alors, il y a le superviseur de la DPS, les EPP, ils sont déjà sur le terrain pour accompagner les équipes des zones de santé pour cette riposte contre cette épidémie de choléra. Le gouvernement provincial aussi n'a pas croisé les bras. Son Excellence Paulé Ndongoli Alibabonga a mis la main dans sa poche pour appuyer aussi cette réponse.
Et vous pensez qu'avec cet appui, l'impact peut être certain sur le terrain?
Bon, vous savez, c'est une épidémie. Pour réussir par rapport à cette épidémie, je pense que ici devant nous, on doit d'abord respecter les gestes barrières. C'est que les gens doivent consommer de l'eau potable ou de l'eau traitée. Ils doivent se laver les mains régulièrement, éviter de déféquer dans l'eau.
Docteur, bienvenue, Ikomo, merci.
C'est à moi de vous remercier.
Et par ici prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi.